Et le journal présenté par Amélie Gerber.
Bonsoir. Le nucléaire est relancé aux chambres fédérales. Le Conseil national a validé le contre-projet indirect à l'initiative Stop au Blackout. La gauche et les Verts libéraux annoncent déjà un référendum contre ce projet. Le Jura, comme d'autres cantons suisses, fait face à un manque de moyens financiers pour les crédits d'investissement agricole. Les demandes et les montants augmentent sans aide supplémentaire de la Confédération. Des mesures ont été mises en place au niveau cantonal. Rendez-vous important ce soir pour l'équipe suisse de football. La Nati affronte la Bosnie-Herzégovine pour son deuxième match de groupe en Coupe du Monde. Réaction attendue après le nul contre le Qatar. Les températures seront douces toute la soirée et durant la nuit. Demain, forte chaleur, le mercure grimpera jusqu'à 33 degrés en plaine et 27 à 1000 mètres. Quelques averses et orages ne sont pas exclus sur l'arc jurassien dans l'après-midi. Le Parlement fédéral décide finalement de relancer le nucléaire. Après plusieurs retournements de situation, le Conseil national a validé aujourd'hui le contre-projet indirect à l'initiative Stop au Blackout. Le texte propose de biffer dans la loi actuelle l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Une minorité aurait voulu renvoyer le projet au Conseil fédéral pour qu'il clarifie comment financer les futures centrales. Mais la question est déjà abordée dans le contre-projet, indique la députée libérale radicale Simone de Montmollin.
La loi prévoit notamment qu'il y ait une procédure d'autorisation générale soumise à référendum, qu'il y ait ensuite un dispositif législatif pour l'éventuelle construction d'une centrale qui est également soumise à référendum. Et durant ces procédures, les aspects du financement sont constitutifs de la décision. L'article du contre-projet, l'article 13, prévoit que les questions qui touchent au financement de la construction et de l'exploitation soient garanties. C'est une des conditions pour délivrer une autorisation générale.
Le groupe du centre était divisé. Certains élus ont changé d'avis au cours du débat. Après le vote, la conseillère nationale centriste Marie-France Roth-Pasquier était débitée.
C'est un dossier qui était très important pour nous. On a eu le Conseil fédéral à l'époque qui a osé et eu le courage de sortir du nucléaire et de proposer autre chose. Le peuple a voté deux fois. Ça veut dire qu'on s'assied sur des décisions du peuple. Et ça, je trouve ça scandaleux. Après, on peut évoquer tout le cirque qu'il y a eu, hein, parce que moi j'appelle ça un cirque, qu'il y a eu autour de cette votation ici, avec des pressions qui ont été faites. Maintenant, à la fin, je pense qu'il faut rester confiant. Le peuple votera. Et puis, il faudra bien l'informer, parce qu'en ce moment, on est en train de monter la tête de nos citoyens en disant qu'on n'y arrive pas sans nucléaire. Et ça, toute la science le montre que ce n'est pas vrai. Il faut avoir la volonté d'avancer dans les renouvelables, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, on peut tenir.
Le contre-projet qui acte le retour de l'énergie nucléaire passe demain en vote final devant les deux chambres du Parlement. Les Verts libéraux et les socialistes ont déjà annoncé leur intention de lancer le référendum. La Banque nationale suisse maintient son taux directeur à zéro pour la quatrième fois d'affilée. Une décision prise malgré une légère accélération de l'inflation en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le Jura est touché par le manque de moyens financiers du fonds des crédits d'investissement destinés aux constructions agricoles. La Confédération a revalorisé les forfaits et les possibilités de soutien l'année dernière sans alimenter davantage le fonds d'investissement de 75 millions de francs. Le canton du Jura remarque pourtant que le nombre de demandes et le montant des investissements par projet a augmenté depuis la période post-Covid. Il se retrouve ainsi, comme d'autres cantons, dans une situation compliquée en matière de liquidité. Les autorités ont communiqué aujourd'hui une liste de mesures qu'elles ont prises depuis le début de l'année. Le chef du service de l'économie rurale, Claude Tchocchi, tente avec d'autres cantons de chercher des solutions pour l'avenir.
On est en fait un peu tous dans le même bateau et puis qu'il faut trouver des solutions pour qu'on ait un peu quelque chose d'homogène sur la Suisse.
C'est une problématique qui pourra se répercuter aussi pour les prochaines années.
On l'espère pas, on espère que ça va quand même un peu bouger au niveau de la Confédération, notamment qu'on a tous les cantons romands où on a fait des demandes supplémentaires. La Confédération nous a dit non pour l'instant, mais on espère que sur les 2, 3, 4 prochaines années, on puisse trouver des solutions financières.
Vous anticipez aussi déjà ce problème pour l'année prochaine, notamment avec une recherche de liquidités supplémentaires à hauteur de 3 millions. Donc on met déjà aussi des choses en place pour trouver des solutions face à ce problème-là l'année prochaine.
D'abord, on a regardé aussi en interne, hein, au niveau cantonal, pour ces notions de liquidité, parce que les crédits d'investissement rentrent deux fois par année, au mois de juin et au mois de décembre. Et nous, notre problématique, c'est les liquidités qu'on a entre-temps pour pouvoir verser aux agriculteurs. Donc on peut très bien avoir sur une année comptable des rentrées autres dans le canton qui nous permettent en fait de verser ces éléments-là, surtout qu'on sait, il s'est planifié, les retour en fait par raconte des agriculteurs.
Claude Tiocchi répondait à Florian Wolfer. Tous les détails concernant les mesures prises par le canton du Jura sont à retrouver sur rfj.ch. Les pêcheurs de l'Ajou ajoutent une ligne à leurs activités. La société de pêche Le Héron s'appelle désormais la société de pêche et environnement de l'Ajou. Cela traduit le renouveau de l'entité qui a signé l'an dernier une convention avec la commune franc-montagnarde et l'office jurassien de l'environnement. La compagnie, née il y a plus de 40 ans, assume de nouvelles missions tournées vers la protection de la biodiversité. Les pêcheurs se chargent d'entretenir deux étangs et ambitionnent de créer des mares à batraciens en faveur du crapaud à couche, une espèce menacée. Cette nouvelle dynamique fait du bien à la société de l'Ajou, selon son président Charlie Meunier.
C'est clair que ça a donné un autre sens, ça a donné un nouveau dynamisme. Et puis pour le village de l'Ajou, je pense qu'avec tous les sites et tous ces endroits qu'il y a vraiment autour du village, c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir une société qui va s'occuper de tout ça.
Ce virage environnemental, est-ce qu'il y a peut-être l'idée aussi derrière de, en guillemets, redorer l'image de la pêche pour dire bon, on n'est pas seulement là pour prélever des poissons?
Alors c'est clair que ça va, il y a beaucoup de jugements sur les pêcheurs, il y a beaucoup d'idées comme ça, mais les pêcheurs sont avant tout des gens qui aiment la nature, et c'est clair que nous on est là pour la nature avant toute chose.
Des propos recueillis par Nicolas Musy. La société de pêche et environnement de l'Ajou présente sa nouvelle convention à la population ce jeudi soir à 18h à l'étang de Beuss. Les pages de la question jurassienne se tournent en ce moment et c'est aussi le cas pour les mouvements antiséparatistes. Celui de Force démocratique sera dissous au 31 décembre, décision prise par le comité directeur hier soir, un comité qui a renoncé à maintenir un mouvement de veille, ce qui n'empêchera pas de s'adapter au cas de nécessité, comme dans les années 70 où Force démocratique avait succédé à l'Union des patriotes jurassiens, le président de FD, Jean-Pierre Grabert.
Aujourd'hui, nous avons mené une réflexion assez identique. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle historique dans notre région et nous avons dit, d'une façon absolument claire, tous les membres du comité directeur à cet égard étaient unanimes, étaient d'accord. Si d'aventure de nouvelles prétentions devaient être émises à l'égard du territoire du Jura bernois par les autonomistes ou les séparatistes, on les appellera comme on voudrait, un nouveau mouvement pourrait sans aucun doute être mis sur pied assez rapidement. Simplement, il ne s'appellerait pas Force démocratique et très probablement ce sont d'autres personnes qui l'animeraient et qui le feraient vivre.
Pour rappel, les quelques 200 membres de Force démocratique ont été consultés par voie de courrier avant que le comité ne décide de dissoudre le mouvement. L'absence de réponse a été considérée comme un consentement à cette fin programmée. Une seule personne avait demandé de maintenir Force démocratique en veille. La LNM prend le large avec un peu de retard sur ce qui était prévu à l'origine. La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat entame dès demain sa haute saison estivale. Même si des travaux de rénovation restent indispensables, 5 navires sont en état de naviguer. Le vapeur Le Neuchâtel devrait les rejoindre en cours de saison, normalement pendant la période juillet-août. Arrivé fin mai, Julien Crevoisier est le directeur par intérim de la LNM. Il se réjouit de la bonne dynamique engendrée par ce lancement de saison. Et il détaille les étapes nécessaires pour que la compagnie retrouve le bon cap.
Il y a plusieurs éléments. Je pense qu'un des premiers éléments, c'est de remettre l'humain au centre et de façon à recréer des dynamiques. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, la situation de la flotte. Donc là, il y a toute une stratégie à mettre en place de rénovation. Donc on doit s'atteler finalement à réaligner 3 choses qui sont la stratégie de fond, l'organisation et la dynamique humaine. Voilà, quand on arrivera à réaligner tout ça, eh bien on sera de nouveau dans une dynamique tout à fait porteuse et positive.
Vous écoutez RFJ, il est 18h09.
RFJ Sport.
La Suisse doit négocier un premier tournant en Coupe du Monde de football. 5 jours après son nul contre le Qatar, notre équipe nationale dispute ce soir son 2e match de poule. Elle affronte la Bosnie-Herzégovine à 21h à Los Angeles dans le groupe B, où les 4 nations sont à égalité avec 1 point. Nous avons évoqué cette rencontre il y a quelques instants dans notre émission spéciale en direct de la plage à Delémont. Notre invité, l'ancien footballeur professionnel jurassien Steven Lang, estime que la victoire est impérative pour la Nati.
Oui, il faut gagner ce soir avec 4 points. On va de toute façon passer. Mais attention, parce que c'est vrai que si on prend pas les 3 points ce soir, ben, on va affronter ensuite le Canada qui accueille aussi cette Coupe du Monde. Et on sait comment c'est. Lorsqu'une équipe accueille une Coupe du Monde, il y a cette euphorie, il y a ce supplément d'âme qui est difficile à contrer. Donc il faut pas prendre de risques, il faut gagner ce soir. Ouais.
Vous attendez peut-être, Steven, ce soir des changements dans la compo?
Je m'attends à des changements parce qu'il y a des joueurs quand même qui m'ont déçu. Je pense notamment à Vargas sur le côté que je n'ai pas trouvé bon du tout, sachant qu'il y a Okafor sur le banc qui excelle à Leeds en Angleterre. Il y a Mandzambi, on le présente plus, peut-être notre meilleur jeune joueur depuis.
Qui est un dynamiteur. Hein,
ouais, exactement.
Sur le terrain,
exactement.
Ouais.
C'est le genre de joueur qui peut faire très mal à l'adversaire. Donc je pense qu'il va être titulaire ce soir. Après Zakaria en tant que latéral droit, j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre. Donc je pense qu'il y aura quand même 2-3 changements dans l'équipe et ces 2-3 changements devraient aider l'équipe à prendre les 3 points.
Steven Lang répondait à Jérémy Pignard. Suisse, Bosnie-Herzégovine, c'est ce soir à 21h, heure suisse. Et puis dans l'autre rencontre du groupe B, le Canada défie le Qatar à minuit. Il y a aussi les affiches du groupe A avec Tchéquie, Afrique du Sud qui a commencé à 18h. Le score est actuellement de 1-0 pour la Tchéquie. Et cette nuit, on retrouvera également Mexique, Corée du Sud à 3h du matin. Dans l'actualité du mondial, mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Son attaquant Eli Wahi ne pourra pas affronter l'Allemagne samedi au Canada. Le joueur a vu son visa être refusé par les autorités canadiennes. La Fédération ivoirienne de football n'en précise pas les raisons. La police jurassienne appelle les supporters de football à profiter de la Coupe du Monde dans un esprit de convivialité, de respect et de sécurité. Elle a notamment indiqué aujourd'hui dans un communiqué qu'elle ne favorise pas les rassemblements spontanés. Ces derniers seront tolérés s'ils ont lieu durant une période maximale de 60 minutes après la fin des matchs, mais en aucun cas au-delà de minuit. Les forces de l'ordre pourraient mettre en place des mesures de gestion du trafic et des déviations durant cette période. Jonas Valti aura l'honneur de frapper la petite balle jaune sur un gazon mythique. Le joueur de tennis prévotois sera en lice à Wimbledon. Il a reçu une invitation pour participer au tournoi dans la catégorie des moins de 14 ans du 9 au 12 juillet prochain à Londres. Le jeune espoir de 13 ans l'a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux. Il fait partie du tableau qui regroupe 32 joueurs venus du monde entier. Le tournoi junior se déroulera sur les terrains annexes de Wimbledon en parallèle du Grand Chelem masculin et féminin. Tidjane Humer jouera sur les parquets américains. Le basketteur jurassien évoluera avec Winston-Salem Christian School en Caroline du Nord. Le joueur de 18 ans poursuivra ainsi son parcours académique et sportif au sein de l'élite Prep League. Tidjane Humer évoluait avec le BC Boncourt en Ligue B cette saison. Le club ajoulot de basketball annonce aujourd'hui que Tidjane Humer devient ainsi le premier joueur issu de l'académie du BCB à rejoindre une telle structure scolaire américaine. Un Français décroche la deuxième étape du Tour de Suisse de cyclisme. Romain Grégoire a levé les bras cet après-midi à Locarno. Il a été plus rapide au sprint parmi les derniers échappés rescapés après 157 km de course. Des échappés qui ont fait face au retour du maillot jaune Tadej Pogacar. Le Slovène a terminé l'étape à 4 secondes du vainqueur. Il possède désormais presque 3 minutes d'avance sur son premier rival, l'Équatorien Richard Carapaz. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée.